Alors j'ai la joie, le privilège ce matin de prêcher sur ce texte magnifique du livre des rois, de l'histoire que nous lisons en ce moment de façon systématique. Et nous avons passé cette semaine par le chapitre 5 de la second livre des rois, avec la guérison de Naaman, le Syrien atteint de lèpre. Au chapitre 5, donc, je vous lis le passage versets 1 à 19. Et ensuite, eh bien, nous tirerons les leçons de cette guérison, du moins une partie des leçons, on est toujours partiel dans nos commentaires et notre prédication. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Alors ce texte est magnifique. Il nous donne de vraies leçons spirituelles. Et la première, je pense, c'est que lorsque Dieu veut manifester sa libre grâce à quelqu'un, il emploie les circonstances et les personnes qu'il veut, à chacun son rôle. Ici, il y a quand même un nombre assez impressionnant d'intermédiaires pour que Naaman soit guéri. Il y a une fillette, une épouse, qui va parler à son mari de ce que la fillette a dit. Il y a un premier roi, un second roi. Ensuite, il y a des anonymes, le bouche à oreille, les médias qui font que le prophète Élisée entend parler de l'affaire. Sixièmement, il y a le prophète. Septièmement, il y a un messager entre le prophète et Naaman. Et huitièmement, il y a des serviteurs de Naaman qui interviennent pour qu'il fasse ce que le prophète a demandé. Donc, je vois 8 intermédiaires dans le processus qui va amener à la guérison de ce Naaman. Et tout cela est conduit librement par le Seigneur souverain qui veut que cet homme soit guéri de sa lèpre. Alors deuxièmement, Dieu dispense ses faveurs à des nations qui continue à l'ignorer. Il est précisé que c'est par lui, Naaman, que l'Éternel avait délivré les Syriens. Dieu était intervenu en faveur des Syriens par cet homme. Et pourtant, les Syriens, ils continuent à adorer un faux dieu, puisque le roi se prosternait dans la maison de Rimmon, voilà, un dieu de l'époque. Il n'était pas acquis à l'Éternel. La preuve, c'est que justement Naaman va se convertir à l'Éternel. Mais Dieu avait fait grâce dans cette circonstance à ce peuple qui ne s'en apercevait même pas, en fait, qui ne lui attribuait pas cette grâce. Mais au sein de ces peuples, de toutes ces nations, il appelle qui il veut à son salut. Il a repéré un homme parmi les Syriens qui est lépreux et il veut le guérir. Dieu appelle cet homme, Naaman, qui n'est pas un juif. Il l'appelle à sa guérison. Et pour cela, il va employer une simple jeune fille. Et donc la troisième leçon, c'est que, alors que les grands sont dans leurs calculs, leur rivalité, leur conflit, leur ruse, les petits sont dans la simplicité. Il y a cette jeune fille, alors il est d'abord dit une petite fille, mais ensuite la jeune fille. Peut-être ça fait déjà quelques années qu'elle était prisonnière et qu'elle était au service de son maître. Mais voilà, la beauté de cœur d'une jeune fille qui a compassion de son maître, dont elle est une esclave bien involontaire, elle est une captive. Et elle va laisser parler son cœur en voyant la détresse certainement de son maître le mal dont il est affligé. Et puis, elle va manifester sa foi. Ah, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Elle est convaincue dans son cœur. Elle connaît les œuvres du prophète et elle croit que son maître, tout Syrien qu'il est, peut bénéficier du ministère du prophète d'Israël. Elle est vraiment dans la foi, cette jeune fille. Et elle pratique à l'avance l'évangile de notre Seigneur, aimez vos ennemis. Elle est vraiment dans l'esprit de Christ, cette jeune fille. Simplicité, compassion, foi font qu'elle n'hésite pas à faire connaître le salut de Dieu à cet étranger. Deuxièmement, Naaman est aussi sauvé par le bon sens de ses serviteurs qui lui font remarquer que le prophète lui a demandé quelque chose de très simple et abordable, et pourquoi ne le ferait-il pas ? Tout simplement. Et ses serviteurs également croient. Ils sont dans la foi puisqu'ils disent « Fais ce que le prophète a dit et tu seras purifié, tu seras guéri, tu seras pur. » Donc les serviteurs croient. Concernant les grands, il est très possible que le roi de Syrie ait effectivement tendu un piège, profité de tendre un piège au roi d'Israël. Mais ce dernier, tout à sa rivalité politique, en oublie qu'il dispose d'une ressource non humaine, le prophète de Dieu. Il affirme avec raison que c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ? Il sait que c'est Dieu. Et c'est une bonne leçon à retenir. C'est effectivement Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. C'est lui qui a autorité sur notre vie. Et nos destinées sont dans sa main. La destinée de chacun est dans la main du Seigneur. Elle ne dépend pas des hommes. Elle dépend du Seigneur lui-même. Et tout homme fort et vaillant dans ce monde est de toute façon confronté au mal qui atteint tous les hommes, c'est-à-dire le pécheur. Tout homme est pécheur et marqué par la mort. C'est bien le sens de la lèpre qui touche tout le corps et qui l'abîme au fur et à mesure. Alors, lorsque les choses se passent autour de vous et pour vous et envers des amis qui vous concernent, qui sont en souffrance, en difficulté, mais que ce soit votre propre péché, que ce soit le péché des autres. Si vous êtes dans un état d'esprit où il y a de la, on peut dire, concurrence humaine, vous êtes occupé, votre esprit est occupé avec les conflits de ce monde, avec l'affrontement des savoirs humains, des philosophies humaines, des religions, etc. Si vous êtes dans cette logique de confrontation, vous n'allez pas être en mesure d'avoir recours à la parole prophétique, la parole de vérité, qui est là pour vous secourir et pour secourir autrui qui est près de vous, que ce soit vous-même qui êtes concerné par le péché ou que ce soit quelqu'un que vous aimez qui est concerné par le péché, quelqu'un qu'on vous présente, la réponse vient de la du Seigneur lui-même, de sa parole, du ministère prophétique, du ministère de la parole de Dieu. Et si notre esprit est occupé avec les histoires de ce monde ou les conflits religieux dans ce monde, etc., nous n'allons pas être utiles. Ça ne va nous être d'aucun secours et nous allons oublier l'essentiel qui est de venir à Christ pour être délivré. La parole de vérité, c'est elle qui peut sauver vos âmes, dit l'apôtre dans une des épîtres. Quand bien même toutes les autorités intellectuelles, spirituelles, politiques de ce monde vous mettraient en difficulté, si vous vous tournez vers la parole de Dieu, vous serez sauvés, vous serez secourus. Et puis, peut-être que quelqu'un d'autre viendra vous rappeler que c'est dans la parole qu'il y a le secours. C'est dans la parole qu'il y a la délivrance. Ce n'est pas en essayant de régler les comptes, on peut dire, de ce monde que les choses vont arriver à leur solution. Le problème du péché qui mène à la mort, c'est ça le vrai problème. Et la vraie réponse existe, il faut seulement la chercher là où elle se trouve. Celui qui bénéficie, quatrième leçon, de la grâce de Dieu doit renoncer à son propre scénario pour recevoir sa purification. Naaman, il avait son idée sur la manière dont les choses allaient se passer. Et sa première idée, c'était que le prophète allait agir selon l'importance du personnage qui venait à lui. Eh bien, il sortira vers moi. Il viendra lui-même. Il s'attend à être honoré par l'apparition directe du prophète. Eh bien, Naaman doit d'abord perdre de son importance à ses propres yeux. La lèpre, c'est le péché qui est attaché à nos personnes et l'on ne peut pas être purifié du péché en valorisant notre personne, en se flattant de notre importance. Cultiver une bonne image de soi, c'est pas le sujet quand on veut être sauvé. On doit venir et accepter la révélation de Dieu pour elle-même, comme elle nous sera transmise, et pas en pensant que nous, quand même, nous sommes quelqu'un d'un peu plus, on peut dire, quelqu'un de valeur à qui Dieu quand même peut pas refuser de faire, pour qui il ne peut pas refuser de faire quelque chose. Et tous, pour nous être sauvés, pensons, nous n'avons pas eu une apparition du Seigneur Jésus. C'est pas lui qui est venu directement se présenter à nous. Il nous a envoyé des messagers aussi. Donc on ne devons pas décider à la place de Dieu de la manière qu'il va agir pour nous convaincre de guérison. Il invoquera l'Éternel, il agitera sa main, il fera ceci, il fera cela, et c'est comme ça que je serai guéri. Non, il doit se ranger au fait que la parole qui lui est donnée est suffisante. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit le Seigneur. Voilà, le prophète lui envoie un messager qui lui dit « fais ceci ». Eh bien, il doit accepter que les choses se fassent de cette façon-là et non pas comme lui a pensé. Et puis finalement, il doit comprendre qu'il n'y avait rien à négocier, que le salut est gratuit, et ne demande aucune compensation. Élisée refuse tous les cadeaux qu'il a préparés. Le salut est gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Personne ne peut négocier avec le Seigneur a posteriori ou a priori ou a posteriori pour obtenir son salut. C'est un don de Dieu, quand il, plusieurs fois l'apôtre Paul emploie cette expression, quant au don gratuit. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cinquièmement, le salut se trouve par et dans la parole de Dieu et pas ailleurs. La foi en la parole de Dieu qui demande une simple obéissance. Va, plonge-toi cette fois dans le Jourdain et tu seras pur. Voilà la parole du Seigneur. Et la foi que la parole de Dieu se trouve là où elle a été révélée et non ailleurs. Ici, c'est le Jourdain. La même opération dans les fleuves de Damas, l'Abana ou le Parpare n'aurait eu aucun effet. Et d'ailleurs, la confession de Naaman, c'est « Je reconnais qu'il n'y a de Dieu qu'en Israël. » Le Jourdain, d'ailleurs le Christ le Seigneur a été baptisé dans le Jourdain, plus tard. Mais on peut dire que le Jourdain, c'est Christ. C'est notre baptême en Jésus-Christ. C'est là que se trouve la purification de nos péchés. Toute, on peut dire, opération religieuse, spirituelle, qui serait en dehors de Christ, n'aurait aucun effet sur notre purification du péché. C'est en Christ et en lui seul, donc c'était dans le Jourdain et pas dans un autre fleuve qu'il fallait que Naaman se plonge. Et il s'est plongé sept fois. Le sept, bien entendu, que c'est la perfection de Dieu. C'est au bout de sept jours de création que le Seigneur a vu et dit que cela était très bon. Et donc notre obéissance, elle doit être simple et entière, parce que Dieu reprend tout à son compte pour nous donner une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Création. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi je pense c'est bien sept fois que Naaman a dû se plonger dans le Jourdain. Et il a été guéri, il a été sauvé. Non seulement guéri, mais sauvé parce qu'il est ensuite converti. Il en témoigne par sa parole. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et même s'il veut encore, il n'a pas encore bien compris, donc il veut encore, on peut dire, non pas qu'il veuille négocier, mais enfin, il veut donner en échange quelque chose pour sa guérison. Élisée le refuse, mais il a bien été sauvé de son péché et il est maintenant à Dieu. Mais il y a quand même un détail qui est intéressant, puisque bon, il comprend qu'il ne peut rien donner à Dieu, mais alors de ce fait-là, il demande quelque chose à emporter. Hein, il dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de mulet, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. C'est-à-dire, il va transporter symboliquement de la terre d'Israël dans son pays pour pouvoir offrir ses sacrifices comme s'il était en terre d'Israël, en fait. Ça, c'est intéressant parce que être sauvé spirituellement, c'est l'être également dans les aspects concrets de notre vie. En quelque sorte, nous transportons notre salut spirituel dans la vie de ce monde. Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité dans notre lieu et nos circonstances de vie. Concrètement, lorsque le Seigneur a agi et nous a accordé le pardon de nos péchés, notre vie change réellement. L'adoration du Seigneur fait partie de notre vie au quotidien. Toutefois, il y a une petite réserve. Voilà, lorsque mon maître entre dans la maison de Rimmon pour se prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Il a bien compris que voilà, quand on adore Dieu, on n'adore pas parallèlement des idoles. Il a bien compris. Mais voilà, il se trouve dans une situation de suggestion, de dépendance de son roi. Et voilà, le simple fait de tenir son roi, manifestement, son roi a besoin d'être supporté, fait que il va faire cette génuflexion. Et ça le dérange, il sait que ce n'est pas bien, et il demande pardon à l'avance. Et il reçoit la paix, l'assurance de la paix de Christ. Et je pense que ça peut quand même nous parler concernant notre situation dans ce monde où les autorités séculières demeurent, qui ne sont pas à Christ, et nous ne pouvons pas les transformer au point qu'elles comprennent nos scrupules de conscience dans certaines circonstances. Nous ne pouvons pas toujours les mettre nos scrupules de conscience en avant pour changer les pratiques des hommes de ce monde. Et donc, nous vivons la foi et l'engagement de façon quand même bien souvent insatisfaisante par rapport aux coutumes de ce monde. Mais le Seigneur nous fait grâce, et lorsque nous sommes vraiment sincères de cœur, eh bien, il accepte que nous vivions dans ce monde imparfait en portant dans notre cœur les perfections de Christ et une véritable adoration. C'est une manifestation quand même là de la grâce de Dieu, de l'esprit de grâce qui doit nous accompagner. Nous ne pouvons pas changer le monde dans lequel nous vivons. Nous pouvons gagner à Christ des âmes, mais nous vivrons toujours dans une situation sociale, politique, où les hommes n'obéiront pas à la loi de Dieu. Et donc, nous devons persévérer fidèlement dans notre propre adoration, en acceptant que l'adoration de tous envers le Seigneur, ce sera pour plus tard. Voilà les quelques leçons de cette magnifique guérison d'un homme lépreux. Et vraiment, ça nous parle du salut, de notre propre salut. Alors, le roi et le prophète ont tous les deux leur part dans ce récit, parce que c'est une histoire entre nations aussi, hein. Mais ça nous parle vraiment essentiellement du pardon de nos péchés, de la manière dont Dieu veut nous purifier, purifier quelqu'un en le prenant dans le monde. Il veut l'amener à sa parole de vérité, à obéir à cette parole, à croire et à être purifié et sauvé. Et essentiellement, il s'agit de faire quelque chose de très facile, dans la mesure où on se débarrasse de notre orgueil, de nos prétentions, on accepte de s'humilier devant Dieu, eh bien, on fait ce que le Seigneur a dit dans sa parole et on en bénéficie, on reçoit le pardon de Christ. Et puis, si les hommes, eux, continuent à se disputer, eh bien, ça ne nous empêchera pas, nous, d'être sauvés. Amen.